Je vais demander à Delphine Leblanc, si elle accepte d'être notre secrétaire de séance, de nous faire l'appel. Merci, Delphine.
Merci, monsieur le maire. Monsieur Charles Daillot. Monsieur Hervé Bayard, absent, donne pouvoir à monsieur Gilles Chauvin. Madame Marie-Christine Bourdieu. Monsieur Farid Eba. Madame Eliane D'Arteron. Madame Catherine Piquet. Monsieur Gilles Chauvin. Madame Geneviève Dariosec, absente, donne pouvoir à monsieur Mathieu Hara. Monsieur Jean-Marie Badby. Madame Chantal Planchenot, absente, donne pouvoir à Nathalie Gasse. Madame Jeannine Lamaison. Monsieur Bruno Ruffia. Madame Pascale Horry.
Présente.
Monsieur Philippe Hérault. Madame Marina Bancon. Madame Marie-Christine Arambat. Monsieur Pierre Merlet-Bonan, absent, donne pouvoir à monsieur Ruffia. Ah, c'est intéressant. Monsieur Jean-Jacques Gourdon. Madame Nathalie Gasse. Madame Marie-Pierre Gazot. Monsieur Hicham Lamsika. Madame Claudie Breck. Monsieur Philippe de Marnix, absent, donne pouvoir à madame Claudie Breck. Monsieur Christophe Ourcade. Monsieur Mathieu Hara. Monsieur Mathis Capdeville, absent, donne pouvoir à monsieur Jean-Marie Badby. Madame Delphine Leblanc, présente. Madame Nathalie Garcia. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Savary. Madame Céline Piau.
Présente.
Monsieur Alain Bachet. Monsieur Jean-Noël Capdeville. Monsieur Frédéric Dutin. Madame Françoise Latrabe. Monsieur Benoît Pierrine. Merci.
Merci à vous. Deux mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Et avant de regarder les 12 délibérations et les PV, vous souhaitez une bonne année, ça on l'a déjà fait, et souhaitez la bienvenue à un nouveau venu dans notre assemblée. Monsieur Capdeville, vous êtes le bienvenu. Un nouveau visage parmi nous. Je vous propose, sans transition, de me dire si les procès-verbaux du 14 novembre et du 7 décembre appellent ou pas des remarques de votre part. Madame Piau.
Oui, merci. Alors, dans le PV du 16 novembre, à la page 3, décidément, ce mot n'a vraiment pas de chance, SP. Vous savez, pour le panneau, a été écrit SP. Oui, mais avec les lettres SP, et donc les deux E du devant et de la fin ont été oubliés. SP, c'était École supérieure du professorat et de l'éducation. Donc voilà. À la page 4, pour l'intervention de Frédéric Dutin, il a été noté, il semblerait que la procédure qui est vidée, alors c'est une coquille puisque Frédéric avait dit qui est visée. À la page 47, pour mon intervention sur la laïcité, j'avais parlé de la frange décoloniale de la gauche, et décoloniale a été écrit en deux mots, décoloniale, alors que c'est la gauche décoloniale en un seul mot, c'est l'adjectif. Voilà. Et pour le PV du 7 décembre, quand Alain Bachet avait excusé mon absence et lu un petit texte, à la page 4, il y a un mot qui a sauté, ça ne veut plus rien dire. Être minoritaire ne signifie pas. Alors, il a été écrit que l'on pense mériter ER, que l'on s'en fout, et c'était que ce que l'on pense, donc le ce a été oublié, que ce que l'on pense mérite, et pas mérité, que l'on s'en fout. Voilà, merci. En espérant qu'on s'en foute un peu moins.
Merci pour ces précisions. Est-ce que du côté de nos services, on a pu enregistrer tout ça de façon à pouvoir le répercuter? Merci. Au-delà de ces remarques, y a-t-il d'autres? Monsieur Pierrine.
Oui, bonjour. Sur le dernier PV, à la page 36, visiblement, mes propos étaient inaudibles. Alors, je ne pensais pas que les comptes rendus étaient faits avec la version audio, et que dès que les micros étaient en panne, on ne pouvait plus faire de compte rendu.
Excusez-moi, donc, monsieur Pierrine, c'est sur le 14 ou le 7?
Ouais, celui de décembre, la page 36.
D'accord.
Donc mes propos étaient juste une demande de bilan concernant la Madeleine 2023, puisque certains élus semblaient les avoir, ces chiffres. C'était juste ça la question. Et alors par contre, votre réponse était très audible, mais elle a été très mal retranscrite. Puisque vous avez dit, allez-y, monsieur Piaride, faites-moi un courrier avec je veux tel truc, ou un mail, ou un pigeon voyageur, ce ce que vous voulez, ou des signaux de fumée. Tout ça n'apparaît pas dans le PV, il faudrait le rajouter. Vous me faites un courrier en me disant je veux tel chiffre, je veux tel truc, et vous les aurez. Donc, et puis si on ne rajoute pas ça, on ne comprend pas plus loin vos excuses pour avoir été irrespectueux envers moi, qui étaient tout à fait bienvenues puisque c'était le cas. Donc il faut absolument le rajouter. Et d'ailleurs, donc, je vous ai, bon, j'ai pas envoyé un pigeon voyageur, j'ai envoyé juste un mail avec tout un tas de requêtes. Et je remercie Madame Gast de m'avoir fait une toute petite réponse, mais pour le reste, je n'ai absolument rien eu. Donc, vous voudrez bien la prochaine fois ne pas me dire en public, demandez, il n'y a qu'à demander, puisque vous ne répondez jamais.
Très bien. On enregistre ce qu'il y a. Donc on enregistre à la fois ce qui est inaudible et à la fois les histoires de pigeons voyageurs et de signaux de fumée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Hormis ces éléments-là, on considère avec ces modifications-là que les PV sont adoptés.
Alors, s'il vous plaît, excusez-moi, est-ce qu'on pourra avoir les PV modifiés, s'il vous plaît ?
Oui, oui. Oui.
Pigeons voyageurs ou...
Oui, ce sera sur Internet.
En ligne.
Oui, ce sera sur le site Internet. Oui, oui. En ce qui concerne les comptes rendus de décision, est-ce qu'il y a des décisions qui appellent des remarques de votre part ? Il y a beaucoup d'histoires de concessions de cimetières. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de notre conseil avec deux délibérations qui concernent la transition écologique. Et je passe la parole à Marie-Christine Bourdieu.
Merci, monsieur le maire. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite loi APER, vise à accélérer et simplifier les projets d'implantation de producteurs d'énergie et à répondre à l'enjeu de l'acceptabilité locale. En particulier, son article 15 permet aux communes de définir, après concertation avec leurs administrés, des zones d'accélération où elles souhaitent en priorité voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter. Ces zones ZAENR peuvent concerner toutes les énergies renouvelables, ENR. Elles sont définies pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'ENR, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies, des potentiels du territoire concerné et de la puissance d'énergie déjà installée. Ces zones d'accélération ne sont pas des zones exclusives. Des projets pourront être autorisés en dehors. Toutefois, un comité de pilotage sera obligatoire afin de garantir la bonne inclusion de la commune d'implantation et des communes limitrophes dans la conception du projet, ou plutôt et en continu. Les porteurs de projets seront, quoi qu'il en soit, incités à se diriger vers ces zones qui témoignent d'une volonté politique et d'une adhésion locale du projet ENR. Il convient de préciser que pour un projet, le fait d'être situé en zone d'accélération ne garantit pas son autorisation, celui-ci devant, dans tous les cas, respecter les dispositions réglementaires applicables et en tout état de cause, l'instruction des projets reste faite au cas par cas. L'enjeu est que ces zones soient suffisamment grandes pour atteindre les objectifs énergétiques fixés aux différents niveaux, national, régional et local. L'article 314-41 du Code de l'énergie prévoit que les candidats retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ou d'appel à projet sont tenus de financer notamment des projets portés par la commune ou par le PCI en faveur de la transition écologique. Les communes identifient les zones par délibération du conseil municipal, après concertation du public, selon les modalités qu'elles déterminent librement. La loi APR n'ayant pas défini les modalités de la concertation, il a été décidé de mettre à disposition pour une durée de 15 jours du public un dossier papier comprenant les zonages et les tableaux détaillant les zones AENR au pôle technique de la ville et de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Une version numérique du dossier sur le site de la ville de Mont-de-Marsan, d'informer le public via le site internet, les réseaux sociaux, radio et presse écrite. Cette concertation a eu lieu du 8 au 21 janvier 2024. À l'issue des 15 jours de consultation, il s'avère qu'aucune observation n'a été émise par le public. Le projet de zonage sera soumis à concertation, sera donc débattu ce soir pour définir les zones d'accélération sur les énergies renouvelables. Ainsi, il est proposé d'instaurer une zone d'accélération sur les périmètres repris en annexe de la présente délibération pour les énergies suivantes. Solaire, photovoltaïque ou thermique au sol, solaire, photovoltaïque ou thermique sur bâtiments et ombrières, biogaz, biomasse, géothermie, réseau de chaleur. Par ailleurs, il est décidé de ne pas instaurer de zone d'accélération sur les énergies telles que l'éolien et l'hydroélectricité. Suite à la détermination des zones par type d'énergie, une estimation a pu être faite des surfaces concernées et par conséquent du potentiel de production annuelle qui pourrait être déployé sur Mont-de-Marsan. Le tableau des surfaces et la présentation des zones et des méthodes de calcul font état de 957 317 m² de surfaces concernées pouvant engendrer une production annuelle de 215 334 MWh. Il nous est donc demandé d'approuver les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Donc vous avez en annexe la cartographie et toutes les surfaces foncières non couvertes, privées, publiques, les surfaces de toiture, bâtiments ville, bâtiments privés, les friches identifiées, la biomasse donc, et le terrain communal de Canax. Voilà, monsieur le maire.
Très bien. Comme son nom l'indique, on est là aussi pour examiner tout ça. Donc, normalement, vous avez dû avoir les éléments. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une liste définitive qui fait qu'on ne peut pas le faire dans un autre endroit ou qui oblige à le faire à cet endroit-là. Mais c'est plutôt une orientation et surtout un recensement très exhaustif. Et je vous remercie les services parce qu'il y a un gros travail de fait pour recenser des choses qui sont à la fois sur le domaine public ou pas d'ailleurs. Donc est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce qui vous a été présenté ou peut-être des questionnements qui pourraient même être relatifs aux différentes annexes que vous avez? Je vous écoute. Monsieur Bachet.
Juste quelques réflexions, monsieur le Président. On nous présente un projet global. Concrètement, quelles sont les ambitions de notre collectivité? Parce qu'il est question projet privé, collectivité. C'est quoi? Est-ce qu'on s'oriente vers un territoire TEPOS? Pas. Voilà, qu'on se pose les questions. Est-ce que ça va faire aussi partie d'une réflexion qu'on pourra étendre à l'agglomération? Je l'espère. Deuxième réflexion, c'est, puisque hier soir nous avions la présentation d'un projet, comment va-t-il trouver sa place à l'intérieur de cette ambition politique? Et la troisième réflexion, ça a trait à ce qu'on s'est échangé hier soir, parce que j'ai cru percevoir que quelques-uns d'entre nous avaient des problèmes avec le progrès. C'est comment on va éviter, dans le cadre des projets qui pourraient naître, d'éventuels blocages, contestations, alors que, comme on l'a souligné hier, et comme j'ai pu le dire, parce qu'on peut remarquer qu'on a eu le flair de retenir, dans le cadre de l'appel à projet qu'on avait fait, le projet qui nous a été présenté hier, parce que ça va être un projet complètement innovant, qui risque de bousculer un peu ce qu'on connaît sur le territoire montois. C'est concrètement l'ambition politique de notre collectivité, c'est laquelle? Parce que là, c'est du global, je reviens au début de mon propos. Est-ce qu'on va ouvrir appel à projet à d'autres projets tels qu'ils nous ont été présentés hier soir, ou on va élargir la gamme? Et comment la population va-t-elle bénéficier de cette ambition politique en termes de consommation? Et comment le tissu économique pourra s'y brancher dessus? Parce qu'on en parlera tout à l'heure, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on le dit, il faut développer la géothermie parce qu'on a un territoire fécond par rapport à ça. Moi, je vous félicite par avance de la libération qu'on va prendre par rapport à la géothermie. Voilà. Et on voit bien que les collectivités jouent le jeu sur ces questions-là. Et je pense qu'il faut qu'on travaille avec l'ensemble des collectivités, la collectivité dans laquelle je siège, la région Nouvelle-Aquitaine, a cette ambition politique d'aider les collectivités, d'aider les projets privés, etc. Donc, nous, il faut qu'on affiche ça, quoi. On ne peut pas prendre une délibération globale, on affiche une ambition, mais concrètement, c'est quoi l'ambition? Est-ce que les Montois, concrètement, ils vont s'y retrouver? Ils pourront dire demain, eh bien, on ne payera pas le tarif de l'énergie au prix qu'il est aujourd'hui. Pourquoi pas? Et est-ce que notre territoire, il sera un territoire à énergie, TEPOS, c'est l'énergie positive, c'est ça qu'on dit. Voilà, donc voilà. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à la simple délibération. Elle est généreuse, elle est très bien, elle va dans le bon sens, Mais il faut qu'on ait l'ambition, nous, de porter des projets sur lesquels pourraient intervenir des privés, mais pourquoi pas des collectivités.
En fait, là, c'est juste une première étape. L'État a demandé aux communes et aux EPCI d'identifier ces zones potentielles pouvant recevoir un projet. Et rien n'est figé, puisqu'en fait, on avait 6 mois pour faire remonter donc ces zonages. Chaque commune de l'agglo est en train de le faire et va passer la délibération. Et en fait, donc rien n'est figé et on pourra faire des avenants au zonage. Donc ça, c'est intéressant. Et ça touche autant les particuliers que les professionnels, que le public. Au niveau du photovoltaïque, les particuliers sont déjà très sensibilisés à ces moyens pour économiser en matière d'énergie et pour avoir une certaine autonomie. Donc on m'a donné les chiffres, par exemple, les photovoltaïques, les dossiers au niveau de l'agglo. En 2021, il y avait 188 dossiers. En 2023, il y en a 453. Donc à nous à montrer aussi et inciter nos concitoyens à se diriger vers ces énergies. Donc c'est en fait avoir aussi une autonomie, et c'est ce que la loi veut, c'est qu'on puisse être autonome en énergie.
Ce que j'entends, il y a plusieurs questions dans la question que vous posez. La première, c'est le contextualiser dans une ambition un peu globale des ENR. La deuxième, c'est est-ce qu'on autoconsomme ou est-ce qu'on réinjecte ? Il y a aussi les histoires d'appel à projet. Peut-être pour balayer les histoires d'appel à projet, appel à projet, oui, sur la liste des biens qui sont sur le domaine public. Il y a des ombrières qui sont situées sur le Grand Moun, il a fait son propre devis, son propre appel à projet. L'hôpital a fait ses ombrières, ils ont fait leur propre devis, leur propre appel à projet sur leur parking. Mais en ce qui concerne nous, nos surfaces, oui, c'est plutôt dans cette logique-là qu'on va. Alors après, là, on est dans un inventaire exhaustif, puisqu'on voit même les toitures des particuliers qui ont été approchées, etc. Donc c'est global. Après, moi, je vais essayer de vous le resituer la délibération d'après pareil aussi, on peut la resituer dans ce contexte, dans un contexte plus global ou plus stratégique, environnemental. On peut même le rattacher au plan climat qu'on a délibéré il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs pour lequel je remercie d'ailleurs ceux qui étaient là hier, parce que c'était une réunion intéressante. Et j'encourage à ce qu'il y en ait encore plus pour la réunion plan climat qui aura lieu le 31, je crois.
Oui, demain soir.
Voilà. Bon, demain, ça passe vite. Il y a 4 objectifs. Le premier, c'est augmenter. Donc, les objectifs concrets, Alain Bachet, c'est augmenter la part des ENR dans nos énergies. Aujourd'hui, on doit être à 20%. Et c'est de passer à 33%, un tiers, en 2030. Donc là, on parle du bois, de la biomasse, de la géothermie solaire, photovoltaïque, avec l'électricité. Aujourd'hui, de la biomasse thermique. Aujourd'hui, la géothermie, c'est 35% de nos ENR sur le territoire. La première chose, donc, augmenter la part d'ENR. La deuxième chose, c'est baisser les consommations d'énergie. Alors, le plan sobriété qu'on a fait en pleine inflation, là, c'était une mesure coup de poing, mais c'est pas forcément une mesure... Il faut aller encore plus loin, notamment sur des rénovations, etc. Mais le plan sobriété en fait partie, pour diminuer aussi les émissions de gaz à effet de serre. La troisième, c'est adapter le territoire au changement climatique. Donc végétaliser, imperméabiliser, infiltrer l'eau sur place et pas la renvoyer, essayer de trouver des zones d'ombre, etc. Et le quatrième, c'est réduire la pollution atmosphérique. On a délibéré l'autre jour pour mesurer un peu cette pollution. Et ça, on a attrait aussi aux mobilités, puisque c'est plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, ça vient des transports. Donc les 4 objectifs, c'est là. Augmenter les ENR, passer à 33%, un tiers en 2030, diminuer les consommations d'énergie, adapter le territoire au changement climatique, et puis travailler sur les émissions et les pollutions atmosphériques. Et puis après, il y a une vision qui est sur tous les leviers. Donc là, on est sur le levier des ENR, mais il n'y a pas que celui-là. Donc il y a le levier logement, résidentiel, bâtiment, immobilier. Donc c'est... Et on l'a vu, et parfois je me fais un petit peu bousculer là-dessus, c'est de construire, parce qu'on a besoin de construire. Je vous rappelle qu'on a un gain de population qui est significatif là sur les dernières années. Donc il faut bien loger les gens quelque part, mais c'est les loger intra-rocade, de façon à densifier un peu, et que les mobilités entre le lieu d'habitation, les lieux de vie, les lieux d'animation, etc., puissent faire en sorte que de plus en plus de monde y aille à pied ou en vélo demain. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi impacté sur nos règles d'urbanisme ou nos réglementations, le fait qu'il y ait de plus en plus de matériaux recyclables, biosourcés ou compatibles avec des nouveaux modes de construction. Je rappelle qu'il y a 500 logements qui ont été refaits ou réhabilités depuis 2020 dans la ceinture montoise. C'est favoriser l'utilisation de matériaux bas carbone, que ce soit pour le bâtiment, mais on l'a vu par exemple pour l'avenue de Sabre, enfin Farbos, on utilise des choses qui permettent de filtrer l'eau, de pouvoir infiltrer de l'eau sur place et pas la renvoyer dans des bassins autres, et de le faire en sorte qu'elle soit déchargée de ses pollutions. C'est à terme aller vers un habitat passif le plus possible. En ce qui concerne le deuxième point après l'habitation, c'est la végétalisation et l'eau. Donc un arbre abattu, on essaye d'en planter trois. C'est pour l'instant ce qu'on arrive à tenir, c'est 2000 arbres sur le mandat. C'est maintenir nos corridors verts, c'est retaper comme on peut le faire aux Neuf Fontaines les zones humides ou les cinq sites de notre PNU. Ça va être renaturer quand on peut le faire aussi l'îlot Lolom, puisque le but du jeu c'est d'enlever du béton, de l'amiante et de l'industriel pour redonner ça à la nature et l'infiltrer. Là j'ai été voir, on commence à avoir de la terre, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de la vraie terre à l'îlot Lolom. Ça va être à Farbos également faire des noues et faire en sorte qu'on diminue près de moitié l'imperméabilisation de la route. Le troisième point c'est la mobilité. La mobilité, c'est les transports. Donc, je l'ai dit, c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, déplacement doux, c'est nos 27 km de pistes cyclables, les aménagements cyclables. C'est inciter la pratique du vélo en mettant des primes pour le grand public de 150 euros pour un VAE ou inciter aussi nos agents à le faire. Ça va être lutter un peu contre l'autosolisme. Là aussi, on a des efforts à faire. Il y a déjà eu deux aires de covoiturage, mais il faut essayer de pousser. Ça va être aussi des travaux sur les services pour la mutation de notre flotte électrique pour essayer de basculer de plus en plus sur des motorisations un peu différentes. Ça va être le sujet des transports en 2025 que ma collègue vice-présidente Marie-Christine Bourdieu aura à traiter pour voir vers qui on se dirige et qu'est-ce qu'on met dans le cahier des charges pour avoir des bus le plus propre possible. Ça va être, par exemple, aussi dans les mobilités, à travailler des sujets de télétravail, c'est déjà fait, mais remettre à plat un peu la charte de télétravail, augmenter les visios, même si on a besoin de se voir et de se voir dans les yeux, essayer de faire en sorte qu'un maximum de réunions se fassent un peu en dématérialisé. Et ça peut même être un sujet de réfléchir pour les services qui sont compatibles, les semaines de 4 jours, en maintenant la santé et la qualité de vie à travail, mais pour essayer de limiter notamment des déplacements quand c'est pas utile et travailler un peu sur l'équilibre familial et professionnel. Donc voilà, ça c'est sur la truc. Sur l'agriculture, vous savez qu'il y a une expérimentation sur les circuits courts, on va avoir le bilan très prochainement, on regardera si ça peut se généraliser, comment, à isotarif, voilà. On a des sujets qui ont déjà été menés à Beaussiette avec cette réserve où on envoie notre eau de géothermie qui descend en température, qui évite de pomper dans la rivière et qui pérennise 3 ou 4 exploitations. Il y a ce fameux projet de réutilisation des eaux d'épuration de la station du Comte. Là aussi, un projet super vertueux qui va permettre de cumuler les travaux qu'il faut absolument faire à la station du Comte, mais avec ces travaux-là, de pouvoir après, avec quelques zones tampons, aller pérenniser 25 exploitations ou 26 sur un plateau de 1000 hectares. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là sur l'agriculture, sujet d'actualité. Sur les déchets, donc je vous ai dit, il y a le logement, la stratégie c'est sur l'immobilier, sur la végétalisation, sur la mobilité, sur l'agriculture. Ensuite, il y a les déchets, donc c'est réduire en permanence, les chiffres sont bons, mais il faut continuer. Le déchet qu'on produit pas, c'est le meilleur. Hein. Donc réduire la quantité de déchets et augmenter la proportion de tri des déchets. Donc ça, c'est ce qui se fait avec une réglementation qui arrive et qui oblige maintenant à composter les biodéchets, à pas les envoyer dans le commun. Donc on aura... C'est facile de composter quand on a un petit terrain, c'est plus difficile quand on est en logement collectif. Donc là aussi, il faut identifier des zones où on peut mettre des bacs à compost. C'est la stratégie zéro déchet. Puis après, il y a l'énergie, et l'énergie, on y vient. Donc c'est juste un petit morceau de cette stratégie. Donc les zones d'accélération ENR, ça va être pour la production de gaz vert. On le fait avec Joannas, on le fera avec le Comte. C'est le projet, je vous remercie d'y avoir assisté hier, qui est un projet vraiment novateur sur l'hydrogène, même si on a tous compris qu'il n'y aurait pas des bus à hydrogène demain matin. Mais en tout cas, c'est aussi utiliser la chaleur résiduelle qui, jusqu'à présent, on la rejetait. On a la chance d'avoir cette richesse de géothermie. Donc voilà, donc ce projet, il est novateur. Sur ce projet-là, d'ailleurs, J'en profite de vous avoir en tant que représentant de la région, d'avoir un conseiller départemental ici, d'avoir, je ne sais pas si Marie-Pierre Gazot est là, de vous avoir aussi en tant qu'attaché de Madame la députée. Je souhaite véritablement que vous m'aidiez et qu'on puisse faire venir sur ce territoire le président de la région ou son VP en charge de ça, le président du département, pourquoi pas le ministre Béchu si on peut essayer de le faire venir, pour que l'on puisse, je vous ferai une demande officielle, hein, d'accord, mais pour que l'on puisse justement sur ce projet de production hydrogène avoir tout le monde derrière nous, parce que c'est un projet sur lequel il va falloir appuyer très fort sur la partie normative, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai le souvenir d'une décision politique pour la station de Joannas qui a été prise il y a 10 ans et un ruban qui s'est coupé 10 ans après. Donc même si là on est sur un projet un peu disruptif, si on peut avoir tout le monde ensemble, donc je me permettrai, Marie-Pierre, Monsieur Dutin, Monsieur Bachet, de vous faire de m'appuyer sur vous pour essayer de se donner les moyens de faire venir ces gens-là ici. Ça va être la rénovation des bâtiments, je l'ai dit, pour l'énergie et puis le plan sobriété. Donc tout ça, c'est une stratégie qui est très claire. Si vous me demandez des objectifs chiffrés, je peux vous en donner sur la part d'ENR. Si vous me demandez des objectifs entre l'autoconsommation ou la réinjection, ça, je suis pas en mesure aujourd'hui de vous le dire. Mais ça, ce n'est qu'une des composantes de notre stratégie plan climat et qui est pour moi une stratégie très claire, très c'est pas du pipotage, c'est quelque chose de très opérationnel. Quand on voit les fiches actions qui ont été faites par les services, que je remercie, on n'est pas dans des vœux pieux. Il y a des choses qui sont faisables à court et moyen terme. Voilà, bon. Réunion sur le PCAET, j'invite. Alors c'est demain, c'est ça ? Le temps passe vite. J'invite tout le monde à venir. Je remercie celles et ceux qui ont contribué ou pour la contribution de cette zone d'accélération. Il y a eu des gens qui ont consulté, mais on n'a pas eu de remarques. Et je remercie vraiment ceux qui étaient présents hier à la réunion, en espérant que pour le PCAET, on sera plus nombreux. Ça ne répond pas à tous les objectifs chiffrés, mais ça replace ça dans une stratégie qui, pour moi, est claire et globale. Est-ce que je soumets au vote cette délibération qui est...
Remarque, s'il vous plaît.
Pardon, je n'avais pas vu. On est un peu dans la pénombre, là.
Tout d'abord, une question très concrète. Après, j'aurai une remarque. Comment se fait-il que les surfaces mentionnées dans la délibération et les puissances potentielles qui vont avec soient différentes, significativement différentes, des chiffres que l'on trouve dans les annexes, s'il vous plaît.
Je vous avoue que je me suis fait la remarque parce que j'ai regardé ce qu'il y avait là pour vérifier. Donc dans les annexes, on voit un total à la fin, j'imagine un total qui est de 827 740 mètres carrés, c'est ça ? Et 302,394 mégawatts. Et dans la délibération, il nous est abordé le chiffre de... Ça m'a fait tilter tout à l'heure aussi, j'ai vu un delta. Aidez-moi.
957 317
mètres carrés et 215 304. Donc, on a un delta, en effet, au lieu. Alors, il y a une version selon la police et selon les manifestants. Donc, il y a 957 317 mètres carrés d'un côté, 827 740 de l'autre. Donc, on va se laisser un peu de temps pour savoir où est la vérité. Vous me laissez moi un peu de temps pour avoir le bon chiffre. Et il y a 215 334 mégawatts d'un côté et 202 393 de l'autre. J'essaye de vous apporter cette précision en cours de conseil. Hein ? On est sur des estimations, mais il y a dû avoir un travail et un retravail qui fait qu'on a peaufiné les choses. Mais bonne remarque, je me suis fait la remarque.
D'accord. Aussi. On parle de 150 000 mètres carrés d'écart.
J'essaye d'avoir l'information.
D'accord. Donc, ma remarque concerne l'enquête publique, puisque moi, en tant qu'élu, je n'étais pas au courant de cette enquête. Je suis présent à toutes les commissions. Je suis aussi un habitué des réseaux sociaux, mais je n'étais pas au courant non plus de cette enquête. Donc j'ai découvert cette délibération en commission il y a quelques jours. Donc j'ai été un petit peu pris au dépourvu face à la complexité du sujet, parce que c'est quand même pas un sujet léger. C'est en groupe de travail avec mes colistiers que j'ai pu avancer un petit peu dans ma réflexion. Il s'avère que dans le zonage, il y a énormément d'espaces boisés classés, notamment du côté de Pémégnan. Alors nous, évidemment, ça nous pose problème parce que...
Allez-y, continuez, je vous écoute.
Voilà, nous...
C'est pas parce que je ne vous regarde pas dans les yeux que je ne vous écoute pas.
Non, non, mais moi je ne suis pas pressé. En plus, ce soir, j'ai l'impression qu'on va aller vite. On n'a pas véritablement envie de voir les espaces boisés recouverts de photovoltaïques, par exemple. Donc, nous aurions souhaité que ces espaces boisés classés soient retirés du zonage. Donc, nous souhaiterions repousser la délibération, sinon il faudra voter contre.
D'accord. Alors, je demande une précision. Est-ce qu'on a un espace boisé classé dans le décompte ? A priori, non. Par contre, on a en effet à Pémignan quelque chose qui ressemble à l'ancienne décharge, il me semble. Donc, ouais, pour moi, ce n'est pas un espace boisé classé, c'est l'ancienne décharge de Pémignan sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose.
Oui, c'est la pollution de pendant des années.
À une époque où tout se mettait là.
Non, non, mais alors, le zonage, la partie rouge sur les cartes, la grande partie rouge englobe à peu près toute la ville. Donc, dans cette zone, il y a quand même des espaces boisés, peut-être pas classés. Quant à Pémignan, selon notre enquête, selon nos recherches, la grande zone bleue sur la carte est au moins en partie un espace boisé classé. Décharge, pas décharge, il s'avère qu'actuellement, c'est une forêt. Et que s'il y a un projet de photovoltaïque là-dessus, nous, on ne va pas le valider ce soir.
D'accord. Donc, alors, sur la partie rouge, en fait, la partie rouge, c'est en fait la zone dans laquelle on a répertorié des bâtiments et notamment des toitures aussi de particuliers susceptibles de pouvoir demain accueillir du photovoltaïque.
Dans tout ça, j'ai bien compris. Voilà. Mais vous m'avez parlé de là aussi tous les espaces boisés dedans.
Voilà. Donc, mais on est sur les toitures là.
Non, mais après, on a
et après, les espaces boisés cassés ne seront pas mobilisés par des zones ENR. On fait sur des friches, on fait sur des bâtiments, on fait sur des parkings. Et là, en ce qui concerne Pémignan, on fera sur la zone qui, certes, a l'air boisée, mais dessous, il y a des années, des décennies de décharges publiques de l'époque. Donc, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'essayer de la valoriser de cette manière-là.
Mais donc, il y a bien un projet de photovoltaïque à cet endroit-là ?
Oui, oui.
Qui sont aujourd'hui, non. Ce soir-là.
Alors, aujourd'hui, non, mais ça peut l'être. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de donner les orientations possibles. Ça veut pas dire qu'il y aura à chaque endroit. Voilà, c'est le potentiel possible et l'orientation qu'on donne pour les différents projets d'énergie renouvelable. Donc, à cet endroit-là, c'est possible. Mais peut-être que ça ne se fera jamais.
J'ai cru comprendre. Alors, dernièrement, il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui interdit tout déboisement pour faire du photovoltaïque. C'est une loi qui a été votée il y a quelques semaines, madame l'assistante parlementaire. C'est ça, non ? Comment ? Vous ne savez pas ? Non, mais donc, il y a une loi qui a été votée, puisqu'il y a plein de projets dans notre département qui sur le photovoltaïque. Et pour stopper cela, il y a une loi qui dit aujourd'hui interdiction de projets sur des forêts, etc., pour faire du photovoltaïque, ce qui est tout à fait normal et naturel.
Nous, on respecte nos règles de PULI notamment, où on ne dégomme pas des espaces de bois classés pour y mettre des ENR. Là, on est sur une friche qui est notamment une ancienne décharge.
Alain, là, c'est une friche, c'est pas une forêt. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport ?
Oui, d'accord. Ce sera contrôlé.
Nous ne détruisons pas d'espaces boisés classés pour y mettre des ENR. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ? On tiendra compte de l'avis de M. Pierrine. Sur cette délibération, y a-t-il des voix contre ? Donc une voix contre M. Pierrine. Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la géothermie, enfin le chauffage de l'hôtel de ville.
Merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre du déploiement de son plan de sobriété énergétique, la ville de Mont-de-Marsan envisage la mise en place de pompes à chaleur géothermiques au haut en lieu et place des chaudières gaz de l'hôtel de ville et du local de la police municipale et du groupe froid existant. Ces pompes à chaleur assureront le chauffage des locaux de l'hôtel de ville, du local de la police municipale et des nouveaux locaux du service communication. Ce projet vise à exploiter la ressource en eau présente sous les bâtiments pour les chauffer et refroidir. Ce projet 100% renouvelable utilise un réseau existant qui limite l'impact sur l'environnement. Donc cette solution géothermie permet une diminution de 90% des émissions de gaz à effet de serre. Suite à la validation de l'avant-projet, donc le coût des travaux pour la mise en place d'une pompe à chaleur géothermie est estimé à 573 479 euros hors taxes. Et cela avec un plan de financement prévisionnel qui est le suivant. Donc vous avez les financeurs potentiels et donc on aurait 80% de subventions pour la réalisation de ces travaux. Donc il nous est demandé d'approuver le plan prévisionnel de financement de ce projet. Sachant que la région, le département, le SIDEC participeraient, l'État fond vert. Voilà, monsieur le maire.
Merci Marie-Christine. Bon, c'est un peu dans le même registre ce qu'on s'est dit là. Hein. Donc là, pardon.
Vous parlez des pourcentages des collectivités, comme ça de mémoire, je ne les ai pas en tête. Mais comme on a voté la feuille de Néotera il y a quelques semaines, donc il y a peut-être des changements. Je ne sais pas si c'est 20%, 25%. Voilà. Vous marquez 20% en étant sûr que c'est ça ou pas? Ou c'est.
C'est des approches qui sont faites par nos services qui se renseignent de service à service sur ce qui se pratique. Voilà. Alors, s'il y a eu un changement la semaine dernière.
Chaque collectivité a ses règlements d'intervention. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on annonce 20% alors que c'est 10 ou 20% alors que ça peut être 25.
Je vais retenir 25, moi, plutôt. On vous remercie.
C'est pour ça que je voulais glisser dans l'oreille. Mais je serai très vigilant. On regardera.
C'est vrai que c'est des choses qui peuvent évoluer.
Absolument, oui.
On s'est basé sur ce qui se pratique jusqu'à présent. Ça rentre dans toute notre discussion au VNR et ça rentre aussi dans une stratégie qui est sur la géothermie. Et hier, en écoutant un peu ce qui se disait, moi, je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin, mais on voit bien que d'aller refaire des forages en profond impose des modèles économiques un peu prohibitifs. Par contre, la solution géothermie, elle est sur la géothermie peu profonde, à condition d'avoir l'espace qui s'y prête pas loin. Et là, sur la mairie, il y a peut-être un coup à jouer. J'espère qu'un jour, il y aura un coup à jouer sur la piscine, qui est un véritable gouffre. Voilà. Y a-t-il des voix contre sur la délibération 5? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Et maintenant, je passe la parole à Claudie Breck. On parle de l'école de musique et des aides pour l'école.
Oui, merci, monsieur le maire. Bon, comme chaque année, nous devons délibérer sur l'attribution des bourses aux élèves montois du Conservatoire des Landes. Je vous rappelle que ces bourses sont calculées suivant le quotient familial. La commission culture du 25 janvier a examiné les 11 dossiers de demande pour l'année 2023-2024. On vous a transmis un tableau dans lequel vous pouvez voir les différents montants pour un total de 929 euros. Bon, considérant qu'il est nécessaire d'aider les familles, nous vous sollicitons pour attribuer l'attribution de ces bourses.
Merci Claudie, et merci de ton engagement pour nous représenter régulièrement sur toute cette partie-là et aussi sur l'IDEM. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Christophe, c'est toi. Christophe Ourcade pour la délibération suivante.
Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, nous aurons une assez courte échéance à contribuer au financement des prestations sociales complémentaires de nos agents, et ce, à hauteur de 50%. Dès 2025 pour la prévoyance et au 1er janvier 2026 pour la santé. Pour information, cela représentera à peu près 80 000 euros dès 2025 et 50 000 euros supplémentaires l'année suivante. Donc, il nous faudra donc faire un choix avant la fin de l'année sur le prestataire et les garanties associées. Donc, le CDG 40 peut servir d'intermédiaire pour consulter et négocier avec des assureurs des contrats pour les collectivités territoriales. Nous souhaitons donc donner mandat au centre de gestion pour consulter des organismes sans qu'il y ait obligation d'adhérer à ce qu'il aura pu négocier. Il vous est donc demandé de donner mandat au centre de gestion 40 pour, d'une part, négocier un accord avec les organisations syndicales représentatives et, d'autre part, de lancer la consultation nécessaire à la conclusion de la convention de participation dans le domaine de la prévoyance, ce qui ne nous exclura pas de consulter par nous-mêmes des assureurs pour ces risques-là.
Merci. Monsieur Ourcade, chose vue en CSTI hier ou avant-hier, je crois, et sujet sur lequel il faut qu'on soit au rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on fera forcément appel à ce qui nous sera proposé. On ouvre le champ des possibles, mais on a là une expertise groupée pour essayer de choisir la meilleure formule. Y a-t-il des questions particulières ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Délibération suivante, le tableau des effectifs.
Donc, comme d'habitude, mise à jour du tableau des effectifs. Il s'agit aujourd'hui d'une évolution d'emploi d'un agent déjà en poste et qui concerne la transformation de son emploi dans la mesure où il a remplacé un agent qui est parti en retraite et qu'à partir du 1er avril 2024, son grade sera désormais, ou son emploi sera celui d'un adjoint technique à temps complet. Celui qu'il a remplacé était avant adjoint technique principal deuxième classe.
Merci. Y a-t-il des remarques particulières, des questions ? On adopte cette mise à jour. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Adhésion. Je vois Philippe qui est en face de moi. C'est toi pour Adulac ? Allez, Philippe Hérault, pour nous parler de renouvellement avec Adulac.
Ça peut. Merci, monsieur le maire. Oui, la délibération, tout simplement, vous propose de renouveler la convention d'adhésion à l'ADULACT, pour mémoire, qui est l'association des développeurs et utilisateurs des logiciels libres pour les administrations et collectivités territoriales. Donc, tout simplement, nous sommes en train d'utiliser un de ces produits, hein, puisque ID Libre que vous avez sur vos tablettes fait partie de la prestation qu'assure l'ADULACT. Ça assure aussi la mutualisation des échanges autour des logiciels libres. Et donc, on souhaite renouveler à nouveau pour une période triennale notre adhésion pour participer à la démarche et éventuellement pouvoir bénéficier dans le catalogue d'autres solutions.
Avez-vous des remarques par rapport à cette délibération ? Merci Philippe. Il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. On va passer à la délibération suivante. C'est moi ? Hein ? C'est moi ? Pardon. C'est moi qui la présente, autant pour moi. Donc, le Conseil municipal, lors de sa séance de juin 2020, a créé des commissions thématiques avec des membres. Suite à la démission de Françoise Cavagnier de son poste de conseillère municipale, M. Jean-Noël Capdeville la remplace au sein du Conseil municipal. Il est dès lors proposé que M. Jean-Noël Capdeville intègre les commissions municipales dans lesquelles Mme Cavagnier siégeait, conformément à l'article cité. Le vote au sein du conseil municipal a lieu à le bulletin secret, mais si vous en êtes d'accord, on peut le faire à main levée. Par ailleurs, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste. Il en est donné lecture par le maire. Je vous propose de voter à main levée. Y a-t-il des avis contraires ? Et je vous propose d'entériner le fait que Jean-Noël Capdeville remplace poste pour poste dans les différentes commissions Françoise Cavagnier, dont je salue l'engagement pendant un certain temps, et en souhaitant la bienvenue à M. Capdeville. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Gilles Chauvin pour nous parler d'une session de parcelle.
Merci, monsieur le maire. Le ministère des Armées recherche activement des solutions d'hébergement pour ces familles de militaires de la base aérienne. À cet effet, il a mandaté la société Link City, promoteur immobilier, pour mener à bien la réalisation d'une opération immobilière sociale comprenant la construction de 30 logements et parkings au niveau du quartier du Perouate. Par courrier d'août 23, Link City nous a fait part de son souhait de se porter acquéreur de ces parcelles. Ce terrain constructible est d'une superficie totale de 3573 m², zone U du plan local d'urbanisme intercommunal. France Domaine a évalué la valeur de ce terrain à hauteur de 290 000 euros. Les membres de la commission Aménagement urbain, urbanisme, logement, travaux et voirie, en date du 18 janvier 2024, ont approuvé le prix de vente à 286 000 euros, qui correspond au montant par mètre carré qui a été établi dans le cadre de la zone d'aménagement concertée de l'éco-quartier du Perouat. Il est donc proposé d'approuver la cession de ce terrain au profit de Link City au prix de 286 000 euros.
Merci Gilles. Y a-t-il des questionnements, des voix contre, des abstentions? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 12 concerne le recours à une ligne de trésorerie pour le CCAS.
Merci Monsieur le maire. Oui, il s'agit ici d'autoriser l'ouverture d'une ligne de trésorerie pour une durée de 1 an, pour un montant maximum de 500 000 euros, suivant les conditions que vous avez dans la délibération et proposées par le Crédit Agricole. Cette ligne ne sera utilisée que si besoin. Il faut savoir que notre trésorerie est commune au CCAS et à la maison d'accueil spécialisée et qu'il peut exister un décalage assez important entre nos dépenses et nos recettes, nos dépenses étant essentiellement les salaires des agents pour à peu près 75% de notre budget et les demandes de prestations auprès de nos bénéficiaires étant essentiellement les subventions de nos tutelles ARS, CAF et conseil départemental. Voilà, donc c'est vraiment pour sécuriser. En 2023, nous n'en avons pas eu besoin. Nous espérons qu'en 2024, nous n'en aurons pas besoin non plus.
Merci. Merci Marie-Christine Rambat. Avez-vous des remarques ou des questionnements? Je vous propose de le soumettre au vote. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. La séance est épuisée. Je vous passe la parole, Madame Piau. Je veux juste, tant que j'y pense, amener une information donc, suite à la question, à la remarque à propos de Monsieur Piarine. Enfin, la remarque, elle, est très à propos, puisque en effet, il y a une coquille entre ce qui est noté dans la délibération et le total qu'on a sur l'annexe. Il y a un différentiel. Le chiffre qu'il faut conserver, c'est celui de la délibération, c'est-à-dire c'est 957 317 mètres carrés et 215 334. C'est soit un mauvais copier-coller ou une évolution des courriers, soit peut-être la non-comptabilisation notamment des toitures des particuliers. Voilà, pour le photovoltaïque particulier, pour la petite histoire. Donc l'annexe est à relativiser puisqu'il manque vraisemblablement la partie toiture particulier. Donc le chiffre est bien de 957 317 mètres carrés et 215 334 et on le note au PV en vous remerciant de cette remarque. Madame Piau.
Oui, merci. Alors c'est juste une intervention qui devrait vous plaire et plaire à tout le monde, j'espère. Alors comme vous le savez, cette année, l'arrivée de la PACEM va donc le 5 mai 2024 va se faire à Mont-de-Marsan, place des Arènes. Alors la PACEM, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais c'est une course qui a lieu tous les 2 ans. Cette année, elle va se dérouler du 30 avril au 5 mai, donc elle finit à Mont-de-Marsan. Elle est organisée par l'association LIGAMS et elle a pour objectif principal de faire vivre la langue occitane, de recueillir des fonds pour ensuite les transmettre à des projets qui transmettent, qui valorisent la langue occitane. Et elle a pour objectif aussi de créer du lien entre les acteurs du territoire qui travaillent pour la langue et la culture occitane. Alors elle va traverser 5 départements à travers le territoire de Gascogne, donc le Béarn, la Bigorre, les Landes, le Bas-Adour. Elle part cette année de Tarbes et donc, je le répète, elle arrive à Mont-de-Marsan, ce qui est la première fois depuis que la PACEM existe. Donc c'est un événement important pour nous. Alors on peut aider, alors en tout elle fait 1100 kilomètres. On peut aider la PACEM de différentes manières, en faisant un don, en participant à courant donc, ou quelques kilomètres. Et il me semble, puisque je vous avais sollicité en 2018 déjà, pour qu'il y ait, vous étiez d'accord, pour qu'il y ait des panneaux signalétiques bilingues, vous voyez, je ne perds pas le nord, c'est occitan, et je pense que ça serait vraiment l'occasion de s'emparer de l'arrivée de la PACEM pour qu'à défaut qu'il y ait tous les panneaux, mais au moins déjà que l'on commence à engager la procédure pour qu'il y ait au moins celui de l'entrée par laquelle la PACEM va arriver, c'est-à-dire route du Houga à Mont-de-Marsan. Ça serait vraiment symbolique et chouette quoi, pour la langue occitane. Je sais votre attachement aux traditions, même si j'aime pas tellement ce mot, parce que les traditions, elles doivent vivre, et justement, pour les faire vivre, il faut qu'il y ait un environnement. Nous avons une classe bilingue à l'école du Pouy. Il faut quand même que les enfants qui sont dans ce dispositif scolaire puissent avoir un environnement qui montre que la langue gasconne vive, et pas justement soit quelque chose de ringard ou d'arriéré. Je vous rappelle que le financement des panneaux peut se partager entre différentes collectivités, l'État, la région, le département, qu'il y a des subventions qui sont dédiées.
Vos collègues de la région et du département ne vous écoutent pas.
Mais je sais, je
Pouvez-vous
sais,
redire...
je sais. C'est terrible.
Pouvez...
Mais ainsi ils sont d'accord, ils sont d'accord.
Pouvez-vous redire à vos deux collègues...
Les panneaux
qui sont, mais, qui sont voilà, à votre droite, a, sans mauvais jeu de mots.
On en a parlé pour ne rien, pour ne rien vous cacher. On en a parlé entre midi et deux. Donc, si vous voulez, on boit les paroles de notre collègue et on les connaît par avance.
Voilà.
Donc, bon.
Donc, on peut, vous le savez, hein, l'OPLO, l'Office public de la langue occitane peut vous aider pour le cadre juridique, les modalités techniques, les modalités linguistiques aussi, hein. Voilà. Donc, je pense que ça serait l'occasion, d'avoir enfin, cette signalétique bilingue, en tout cas, de démarrer. Et j'espère, donc, que ça sera plus vite que le panneau pour l'INSPE.
OK. C'est bien que vous fassiez, vous auriez mais vous l'avez dit, vous auriez pu dire que c'est aussi chacun peut faire des dons sur un site, hein, par rapport à ça. Hein. Je crois que voilà, il y a ça. Donc on essaiera de communiquer autour de ça. Ça va être une super belle manif qui se termine aux arènes, je crois. Vous avez dit la date de l'arrivée.
Donc le 5 mai.
Voilà. Merci. Bon, je vous remercie de m'épargner de devoir changer tous les panneaux de la ville en un temps record. Mais j'entends bien que ce serait sympa, en effet, qu'ils arrivent par. Donc je me le note par rapport à et je remercie par avance la participation généreuse de vos voisins sur le sujet. Très bien, je vous remercie de vous soucier de ma santé. Sans transition, vous avez sur la table une gourde magnifique qui est un cadeau offert par notre régie et qui est la preuve que nous avons toujours la maîtrise publique des décisions sur le truc. Et donc, l'eau dont vous êtes tenu de venir à chaque conseil avec cette gourde et de la remplir au fur et à mesure, s'il n'y a pas d'autres remarques. Notez bien donc la passée, mais notez bien la réunion de demain concernant le PCAET. Bon, écoutez, a priori, c'est une réunion publique avec les. Je l'ai vu moi sur les réseaux sociaux notamment. Bonne soirée, je lève la séance et je vous remercie.